le Code de la consommation, article L111.1, stipule que toute offre de contrat doit comporter un certain nombre d'informations. Le prix, la description précise des biens ou services proposés, les conditions de vente, etc. Et les articles L441.3 et suivants imposent également des obligations en matière de facturation. Le Code du travail, lui, impose aussi des règles concernant les modalités de rémunération et de facturation des prestations fournies par les travailleurs indépendants ou les entreprises. Et enfin, le Code général des impôts contient des dispositions concernant les obligations fiscales des entreprises, y compris la facturation de la TVA et d'autres taxes. Les factures doivent contenir des informations précises sur les montants et les taxes applicables. La législation sur la protection des consommateurs, telle que la loi Hamon, impose des obligations supplémentaires en matière d'information et de transparence dans les transactions commerciales avec les consommateurs. Et à cela, il faut ajouter que certains secteurs d'activité peuvent aussi être réglementés par des règles spécifiques en matière de présentation des devis et factures. Et par tous ces moyens, le législateur lutte contre une paresse naturelle à expliquer ou contrôler qui est ridiculement fondée sur une prétendue confiance. Avant l'inflation des lois de détail secteur par secteur, la règle religieuse organisait une confiance sereine. En effet, dans de nombreuses traditions religieuses, l'exploitation de la confiance d'autrui est considérée comme moralement répréhensible. Même avant l'établissement de lois formelles. Les enseignements religieux tels que ceux du christianisme, de l'islam ou du judaïsme et d'autres croyances ont souvent mis en garde contre la tromperie et l'abus de pouvoir, y compris dans un contexte professionnel. Par exemple, dans le christianisme, des principes tels que l'honnêteté, l'intégrité et le traitement équitable des autres sont valorisés, ce qui implique que l'exploitation de la crédulité d'un client serait contraire à ses enseignements. De même, l'islam met l'accent sur l'éthique commerciale et la justice dans les transactions, ce qui suggère que profiter de la naïveté d'un client serait inacceptable. Historiquement, les communautés religieuses avaient souvent leur propre système de justice pour traiter les transgressions morales qui pouvaient inclure l'exploitation professionnelle. Mais l'idée de tromper son prochain sous le regard divin était plus dissuasive que la crainte d'une hypothétique action judiciaire. Il est important de noter que la perception de ce qui constitue une faute ou un péché peut varier considérablement selon les différentes cultures et époques, même au sein d'une même tradition religieuse. Et aujourd'hui, de nombreuses professions ont des codes d'éthique qui reflètent ces valeurs anciennes, soulignant l'importance de la confiance, de l'intégrité dans les relations professionnelles. En résumé, les responsabilités de guidance au sein d'une communauté sont passées de la religion à l'État. Mais cela reste toujours, de toute façon, un problème de crédulité du consommateur et du manque de clarté plus ou moins organisé par le fournisseur de services. La religion faisait a priori pression, mais les impies ne s'en souciaient guère. La loi, elle, organise des sanctions, mais a posteriori. Il faut donc les mettre en œuvre, adapter son comportement, être vigilant. Un devis qui ne détaille pas les moyens, services et matériaux utilisés doit être perçu comme manquant de crédibilité et de probité. Il ne doit pas inspirer confiance au client quant à la qualité et l'exactitude de la proposition. Et il est donc préférable de rechercher des prestataires fournissant des devis détaillés et transparents pour éviter les malentendus et les problèmes potentiels et montrer ainsi aux prestataires une confiance vigilante. À la semaine prochaine. Visitez le site de l'émission et donnez-nous vos commentaires ou posez vos questions.